Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être venus à une heure assez inhumaine, surtout le lundi qui est déjà un jour déprimant, se retrouver ici à 9h. Mardi, ah oui, bah, vous voyez. Bon, ok. Vous savez, les historiens ont un sens du temps qui est assez, assez vague et ambigu. Mais même un mardi à 9h, ça n'est pas évident et je vous remercie d'être venu. Pour ceux d'entre vous qui suivent mon cours, vous savez que j'essaye de combiner le sujet général de mon cours, qui est l'Empire ottoman et la Turquie face à l'Occident, avec, lors de mon colloque annuel, une incursion dans un domaine qui m'est de plus en plus familier, mais qui est quand même étranger à mes connaissances, celui de l'archéologie, de l'histoire de l'archéologie. Pour deux raisons, parce que je travaille là-dessus depuis quelque temps et aussi parce que je trouve que c'est un domaine qui est directement lié à la question justement de l'Occident et des relations avec l'Empire ottoman, de l'occidentalisation, la manière dont les Ottomans s'essayent progressivement à une discipline qui n'est pas vraiment, qui ne fait pas partie vraiment de leur panoplie culturelle et intellectuelle. Vous vous souviendrez, certains d'entre vous ont probablement assisté à la première édition de ce colloque l'année dernière, où j'avais abordé la question de la Phénicie autour de Osman Hamdi Bey, qui est une figure de proue de l'histoire intellectuelle de l'Empire ottoman et quelqu'un sur qui j'ai énormément travaillé, et des autres acteurs de cette découverte de la Phénicie dans la seconde moitié du XIXe siècle, à commencer par Ernest Renan. L'objectif était d'amener, encore une fois, cette interface entre l'archéologie et l'occidentalisation et les relations entre l'Empire ottoman et l'Europe, a une dimension très particulière qui impliquait la France, puisque la Phénicie était une découverte française, j'ai parlé de Renan, et nous avons pendant toute une journée discuté de cette dimension particulière, de cet épisode particulier de l'histoire de l'archéologie. Aujourd'hui, nous faisons un petit retour en arrière vers cette période charnière entre le XVIIIe et le XIXe siècle, lorsque l'archéologie est en gestation, disons. Je n'ai d'ailleurs pas utilisé le terme d'archéologie, puisque à la fin du XVIIIe ou au début du XIXe, voire même jusqu'au milieu du XIXe siècle, il est difficile de vraiment parler d'archéologie. Le terme qui décrit les gens qui s'intéressent aux antiquités, le terme consacré de l'époque est celui d'antiquaire. Et c'est un sujet très vaste qui comprend bien sûr l'histoire des collections et la logique même de la constitution de ces collections depuis le Moyen-Âge, mais en particulier avec la Renaissance, le XVIIe siècle, Peiresque, etc. Mais dans le contexte de ce tournant du XIXe siècle, nous avons des épisodes quand même très frappants de cette fièvre antiquaire, comme je l'appelle, cette passion que l'on se découvre et qui se double d'une fièvre du voyage, puisque c'est aussi le tour, le grand tour, c'est la découverte du Levant, de cet Orient qu'on appelle Grèce, qu'on appelle Asie Mineure, et où l'on veut découvrir les traces des origines de la culture, de l'histoire européenne. C'est donc dans ce contexte-là que s'inscrit le colloque d'aujourd'hui, et nous allons donc parler de phénomènes, d'objets, d'événements qui sont généralement assez bien connus. Qui ne connaît pas les frises du Parthénon ? Toute la Grèce, bien sûr, pour les réclamer, mais aussi le grand public, puisque c'est un des événements majeurs de cette découverte de l'Antiquité, mais une découverte qui se fait non plus simplement dans les livres, mais dans l'objet, dans le désir désir d'obtenir des preuves matérielles de ce passé et de les exposer dans une nouvelle invention de la période, le musée. Donc une collection publique, une collection qui a vocation d'éduquer le public et de lui donner à voir ces traces matérielles d'un passé que l'on étudie de plus en plus près. Et les marbres d'Elgin, nous y ajouterons bien sûr une histoire française, franco-française, qui est extrêmement prenante, celle de la Vénus de Milo en 1820, sa découverte et le fait que, encore une fois, il s'agit d'un de ces événements clés, phares, qui contribue à la constitution de collections occidentales, aux dépens, direz-vous, du patrimoine grec ou du patrimoine levantin, mais avec le désir, encore une fois, d'expliquer le passé en l'illustrant par des objets. Seulement, ce n'est pas à proprement dire les antiquaires ou l'archéologie ou les objets eux-mêmes qui nous intéressent, mais ce que j'appelle les acteurs et les interlocuteurs locaux de cette fièvre antiquaire. Alors, qui sont-ils ? Je pense que cette image, cette image le dit un peu. C'est une aquarelle de Cassas qui représente justement des locaux, des indigènes en admiration devant des pierres sculptées, devant un bas-relief au pied d'un temple en ruine. Bien sûr, c'est de l'invention pure, mais ça dit bien ce que la manière dont ces peintres et voyageurs occidentaux concevaient la relation et l'interaction entre cet héritage, entre ce patrimoine et les populations locales. Une interaction qui n'est pas intellectuelle. En fait, on pense souvent et on dit souvent que les locaux sont responsables de la destruction de ce patrimoine de l'Europe, et c'est au nom de cette destruction, pour empêcher cette destruction, que certains vont aller jusqu'à enlever des pans entiers des métopes et des frises du Parthénon, invoquant encore une fois la barbarie des locaux qui s'amusent à tirer dessus, etc. Cet argument du vandalisme inhérent des populations locales est quelque chose qui aura la vie dure, puisque tout au long du 19e, ça va être l'argument avancé par la plupart des intellectuels, des archéologues, des fouilleurs qui veulent légitimer, justifier leur action et surtout l'enlèvement d'objets de leur site d'origine. Alors, donc c'est une représentation complètement idéalisée, en quelque sorte, du contraste entre des gens qui ne savent pas vraiment comment évaluer ce patrimoine, qui sont quand même fascinés par la vision de ces pierres sculptées, et par conséquent qui représentent à la fois l'ignorance, mais aussi la continuité, puisque l'un des problèmes, nous le verrons, c'est de lier le présent de cette région au passé, illustré par ces objets. Encore une toile qui est tout à fait charmante, puisqu'elle représente Istanbul même, Constantinople, avec la corne d'or. Vous reconnaissez derrière la mosquée de la Yeni Cami, l'une des grandes mosquées impériales du XVIIe siècle, et sur la rive gauche, donc nord de cet estuaire, vous reconnaissez une scène qui illustre l'enlèvement de certains marbres à destination de la France. D'ailleurs, des archéologues se sont intéressés et ont pu reconstituer, parce que là, ce n'est pas vraiment un fantasme de peintre, c'est vraiment une documentation d'objets qui ont été identifiés et qui, aujourd'hui, sont dans des collections muséales, notamment en France. Mais il y a aussi l'autre indigène que l'on voit si clairement sur ce frontispice du célèbre voyage pittoresque de la Grèce de Choiseul-Gouffier. Choiseul-Gouffier, un intellectuel aristocrate, intellectuel antiquaire, touche à tout, un phénomène tout à fait typique de la fin du XVIIIe siècle, qui, avant d'être nommé ambassadeur à Constantinople, traversera la Grèce et l'Asie mineure en quête d'objets et de documentation de ces objets. Et le frontispice parle d'un indigène très particulier. Si l'on zoome sur l'image, on voit que c'est une femme en vêtements orientaux. On pourrait la prendre pour une turque, entre guillemets, mais c'est non pas une grecque, mais c'est la Grèce. C'est la Grèce enchaînée, la Grèce captive, dans un méli-mélo d'objets associés avec le passé grec, qui implore la pitié, l'aide de l'Europe pour qu'elle la sauve des griffes et du joug des barbares, donc les Ottomans, qui dominent cette région de l'Europe depuis le XVe siècle. Donc le philhellénisme, cette idéologie très forte qui aidera et portera en grande partie l'insurrection grecque qui deviendra une guerre d'indépendance contre l'Empire ottoman, qui sera soutenue par des philhellènes, un peu comme 100 ans plus tard la guerre d'Espagne, qui attirera des légions de volontaires venus combattre le nazisme ou le fascisme. Là aussi, vous avez une montée en puissance d'une idéologie qui veut trouver dans la Grèce les origines de la civilisation occidentale et qui, par conséquent, veut libérer les héritiers de cette civilisation, même si ces héritiers semblent être plus ou moins identiques aux barbares qui les tiennent sous leur joug. C'est un des problèmes, un des dilemmes de ces intellectuels, de ces voyageurs, la déception de voir que les Grecs, somme toute, ont l'air bien oriental et qu'ils n'ont pas, ils ont perdu, semble-t-il, cette pureté esthétique, physique, intellectuelle, etc., qui voudrait les rattacher à leurs ancêtres grecs. Nous parlerons d'une géographie que j'illustre avec une carte ottomane pour donner un peu de couleur locale. Nous parlerons de sites qui sont assez bien connus, Constantinople tout en haut, Istanbul, la capitale de l'Empire ottoman, où beaucoup de restes de l'Empire byzantin seront convoités par des voyageurs, des diplomates. C'est là que Elgin, Lord Elgin, celui qui repartira avec les frises du Parthénon, c'est là qu'il va s'essayer pour la première fois à l'archéologie en s'attaquant à des vestiges byzantins, notamment des sarcophages en porphyre ayant appartenu à des empereurs byzantins. Premier épisode, si vous voulez, de cette fièvre antiquaire qui vraiment vise l'obtention, l'acquisition d'objets et qui, par conséquent, met ces individus, ces diplomates, ces intellectuels, ces artistes, ces voyageurs en contact avec les autorités locales, avec les autorités ottomanes, pour obtenir satisfaction, pour obtenir les objets convoités. Bien sûr, en Grèce, en Grèce continentale, si vous voulez, vous avez Athènes, la petite étoile ici, voilà, Athènes avec son acropole qui est depuis des siècles le point focal d'un intérêt occidental pour l'Antiquité grecque et qui se retrouvera catapulté au devant de la scène avec l'action assez discutée de Lord Elgin, mais aussi dans les années 1820, lors de la guerre gréco-turque, la guerre d'indépendance grecque, avec le siège d'Athènes par les Ottomans, puisque Athènes tombera aux mains des insurgés grecs tout au début de l'insurrection, les Ottomans tenteront et arriveront à reprendre cette ville en 1826, et il en découlera des tragédies, des drames, et encore une fois une appréciation, un intérêt pour les antiquités, notamment le Parthénon, que l'on voudra préserver des dégâts de la guerre. Sinon, en Morée, vous avez bien sûr Bassae, Figalia, les découvertes de dont Emily Neumeier ici nous parlera, où l'on voit un jeu intéressant entre les autorités ottomanes ou des autorités, des notabilités ottomanes locales qui s'essayent déjà, semble-t-il, à l'archéologie. Enfin, l'archéologie avec de grands guillemets, l'archéologie, c'est-à-dire la pratique des fouilles, émulant, semble-t-il, l'exemple des étrangers, des occidentaux, tels Elgin, qui recherchent ici des trésors pour emporter de la même manière qu'ils l'ont fait pour les frises du Parthénon. Les gens s'intéressent à la Crète, les gens s'intéressent, et là, en plein milieu de la mer Égée, vous voyez l'île de Milo l'Argentière, cette île dont proviendra la Vénus du même nom. Là aussi, mettant en contact les autorités ottomanes et françaises pour l'obtention de cette idole, comme les Ottomans l'appellent, qui viendra décorer les collections françaises, rivaliser en quelque sorte avec l'avantage compris les Britanniques sur la France en obtenant les marbres d'Elgin, les marbres du Parthénon. Donc vous avez une rivalité qui va s'étendre jusqu'au Levant, et va impliquer donc la participation d'acteurs locaux, des acteurs qui sont encore une fois des acteurs étatiques, des membres de la bureaucratie ottomane. Il y a jusqu'au sultan qui émet des opinions concernant l'acquisition de certains objets. Et puis vous avez la bureaucratie elle-même, la bureaucratie centrale, vous avez la bureaucratie provinciale, les notabilités, et vous avez bien sûr la population locale. La population locale qui n'est pas musulmane dans bien des cas, qui est grecque, et qui par conséquent a des pratiques proto-archéologiques, pré-archéologiques, qui parfois invoquent la magie pour attribuer à des objets une valeur qui les obligera à s'opposer, les incitera à s'opposer à l'enlèvement de certains objets. Bref, toute une panoplie sociale, culturelle, ethnique d'acteurs locaux que l'on va essayer d'insérer dans le grand récit. Puisque le problème est que le grand récit de l'archéologie, alors là, vous avez la fameuse scène par Dodwell de l'enlèvement des métopes du Parthénon, le problème, c'est que le grand récit ne se soucie guère de la dimension locale. Le grand récit de l'archéologie, il n'a que deux objectifs. La science, si vous voulez, le fait d'interpréter, d'utiliser ce patrimoine pour en tirer des conclusions historiques sur, justement, le grand récit de l'Occident, quelque chose qui lie la Grèce antique à Rome et à l'Europe. Et par conséquent, les réactions locales ou la dimension locale des rapports, des interactions avec les autorités ou la population locale a tout au plus le statut d'un épiphénomène qui est parfois raconté, narré dans les rapports, dans la correspondance diplomatique ou dans les récits de voyage, mais qui n'est jamais pris au sérieux parce qu'il ne fait pas partie des considérations essentielles qui dirigent, qui définissent l'action de ces Occidentaux. Donc il y a là une histoire qui a été mise un peu de côté et que l'on peut essayer de rétablir, de sauver en trouvant des sources, des documents ottomans notamment. Celui-ci, j'en parlerai lors de ma présentation, est un document qui est intéressant puisque c'est une pétition de l'ambassade de France. Vous voyez le sceau de l'ambassade de France à Constantinople avec les fleurs de lys, etc. Mais au-dessus, vous avez un buyuruldu, une décision de la machine étatique ottomane qui autorise un certain Français à prélever des pierres gravées, comme on les appelait, des pierres gravées dans certaines régions de l'Empire. L'exemple le plus flagrant est probablement celui de la Vénus de Milo, dont nous connaissons ou ne connaissons pas vraiment l'existence d'un document ottoman, et en plus un document ottoman extrêmement intéressant puisqu'il est bilingue. Vous reconnaîtrez en haut une écriture, une graphie en arabe, donc du turc ottoman écrit dans l'alphabet arabe, et en dessous le même texte en grec. Ce n'est pas une pierre de Rosette, nous connaissons les deux langues. L'avantage ici est de montrer à quel point l'administration ottomane se doit de se plier à la pluralité ethnique, confessionnelle, linguistique, culturelle de l'Empire. Et par conséquent, lorsque le Kapoudan Pacha, c'est-à-dire le grand amiral de l'Empire, doit s'adresser au primat, au notable de l'île de Milo, à la suite du différend qui oppose les Français qui ont fini par emporter la Vénus de Milo et le drogman, c'est-à-dire l'interprète de l'arsenal, lorsque ce différend éclate et devient une sorte de crise diplomatique, le capitaine Pacha est obligé d'émettre un buyuruldu, un décret justifiant l'acquisition française de la Vénus de Milo. Ce qui est intéressant, ce qui dit en quelque sorte la pauvreté de nos connaissances en matière d'acteurs locaux, est que ce document n'émane pas des archives ottomanes, mais des archives du musée du Louvre. C'est une photocopie que j'ai trouvée dans l'un des dossiers de la Belle Dame, de la Vénus de Milo. Il y a une documentation extrêmement riche, puisque la Vénus de Milo a défrayé la chronique pendant des décennies, jusqu'à cette fameuse opposition entre Salomon Reynac, qui la voulait plus vieille, et Furtwängler, qui l'a trouvée hellénistique, avec raison d'ailleurs. Tout cela est bien sûr dans le dossier, et parmi tous ces documents, vous avez un petit document, un apax en quelque sorte, un document ottoman que personne n'a lu, qui a tout au plus été utilisé dans une publication comme illustration, sans que personne ne se soit penché sur le contenu de ce document. Encore une fois, la question n'est pas de remettre les pendules à l'heure, de réécrire l'histoire de l'archéologie. Évidemment, la documentation que l'on va trouver dans l'Empire ottoman, dans les sources ottomanes ou grecques, la documentation que l'on pourra tirer de traditions orales, etc., ne va pas changer la grande histoire, le grand récit de l'archéologie. Nous n'allons pas remettre en question l'origine ou le sens de la plupart de ces acquisitions. Nous n'allons pas non plus rentrer dans le débat qui est beaucoup plus politique et actuel des restitutions. C'est une question. Ce qui nous intéresse, c'est simplement de remettre un peu de lumière sur la dimension locale, faire comprendre que pour un historien, l'archéologie ne peut pas se réduire à un côté simplement de la question, c'est-à-dire la constitution d'un récit eurocentré qui raconte l'acquisition et l'interprétation des objets, que ces objets ont une histoire, un ancrage régional, culturel, dans leur pays d'origine, et qu'il est intéressant pour la connaissance historique de se pencher sur cette dimension-là et de ramener un peu de lumière sur la la face cachée, en quelque sorte, des débuts de l'archéologie, la période de cette fièvre antiquaire. Donc là aussi, un exemple, je crois, assez flagrant de la nécessité qu'il y a de se pencher un peu plus sur le contexte, sur la documentation de cette période. J'arrêterai ma présentation ici en vous disant que, tout d'abord, je suis très content d'avoir ce qu'on appelle une belle brochette d'intervenants, une brochette qui est intéressante parce que ce sont des gens qui viennent d'horizons et de disciplines très différents, variés, mais convergents, c'est-à-dire que nous avons des atomes crochus, autant les anthropologues qui seront ici que les archéologues, que les historiens de l'art, les historiens de la culture, les historiens tout court, nous avons des atomes crochus qui se concentrent autour justement de cette question de raviver la réalité, l'historicité d'un contexte trop longtemps ignoré. Je suis particulièrement ravi de voir que j'ai, sans les rechercher, respecté un certain nombre de parités qui me paraissent importantes. D'abord, la parité homme-femme, nous sommes 4 contre 4, 4 et 4, pas contre, 4 et 4, ce qui est quand même un hasard heureux, mais je pense que c'est quelque chose dont il faut tenir compte. Je crois que nous avons aussi une sorte de parité des régions, une parité Nord-Sud, 4 dignes représentants du Nord, avec un Gallois, une Belge, un Français. Nous avons vraiment donc un palimpseste nordique, si vous voulez. Et puis nous avons les dignes représentants du Sud, les victimes, si vous voulez, ceux dont les noms ont des consonances grecques, une italienne, et puis le Turc de service. Encore une fois, pour parler d'une dimension locale. Nous avons aussi la parité des langues. Alors, ce n'était pas un objectif forcément, mais vous savez à quel point l'anglais est présent, omniprésent dans les humanités, dans les sciences sociales. Nous avons 4 anglophones et 4 francophones, mais en revanche, nous avons le soutien du Collège de France pour une traduction simultanée dans les deux sens. Donc, pour ceux qui ne l'auraient pas noté, vous signale que des casques sont mis à votre disposition si vous voulez suivre les interventions en anglais, la traduction en français des interventions en anglais, ou vice-versa, ce que je n'annoncerai pas en français puisque ça n'aurait pas de sens. Donc, voilà, je vais prendre sur moi la charge du maître de cérémonie pour présenter chacun des intervenants. Et je vais commencer, et ce sera l'occasion pour moi de les présenter, vous parler un peu de leur profil et de leurs intérêts. Mais je vais commencer tout de suite en présentant le premier des intervenants que vous connaissez certainement, Alain Schnapp, qui est un des grands noms, si ce n'est le plus grand nom, de l'histoire de l'archéologie, mais aussi de l'histoire de l'archéologie, et quelqu'un qui a énormément travaillé sur la question justement des antiquaires, et ce, dans une perspective pluriséculaire, puisqu'il s'est penché sur des cas aussi bien antiques, médiévaux, de la Renaissance ou de la période contemporaine, et surtout pluriculturel, puisqu'il s'est intéressé au phénomène dans ses dimensions chinoises, islamiques, c'est-à-dire l'universalité ou le manque d'universalité dans certains cas de ce phénomène de la collection, de la fièvre du collectionneur et l'identité de l'antiquaire. Alain Schnapp est professeur émérite des universités. Il est à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Vous connaissez probablement de lui La conquête du passé, aux origines de l'archéologie, qui est une sorte de bible de qui veut s'intéresser à l'histoire de l'archéologie. Ruine, un essai de perspective comparée, là aussi une publication extrêmement importante qui permet justement de replacer le contexte des ruines dans l'histoire culturelle. Il est aussi, je vous l'avais dit, un spécialiste de l'Antiquité, de la cité dans le monde gréco-romain. Il s'est même intéressé, et ça c'est plus récent, avec Pierre Vidal-Naquet à mai 68, mais ça, ce sera pour un autre colloque. En tout cas, je cède ma place à Alain Schnapp, qui va présenter son intervention.